C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Bonjour à tous. Nous sommes à la 36e de nos émissions et j'ai intitulé celle-ci « Quand la météo fait l'histoire ». Louis Baudin, qui est un journaliste météo, nous fait réfléchir dans son dernier ouvrage sur l'influence du temps dans le résultat des batailles, et ceci à toutes les époques de notre longue histoire. Maintenant, grâce au progrès des prévisions, des défaites deviendraient peut-être des victoires. Je me suis intéressé à la bataille d'Azincourt, le 25 octobre 1415. Dans le rugby, on dit toujours que dans la boue, les Anglais sont les meilleurs. Ce qui m'a aussi intéressé est de parler du roi Henri V d'Angleterre. Carbone est jumelé avec Monmouth, au pays de Galles. C'est là, à Monmouth, que naît Henri V, roi d'Angleterre, le 16 septembre 1386. Cette ville possède une place au nom d'Azincourt Square et la statue du roi y trône en vainqueur. Un magnifique tableau montre la scène dans le hall de la mairie. À l'évocation du nom d'Azincourt, les souvenirs d'enfance oubliés ressurgissent et le crissement de la craie sur le tableau noir. Azincourt, 1415. Il s'agit d'un des premiers épisodes de l'histoire de France où l'influence de la météo est véritablement attestée dans les chroniques. Elle fait basculer l'issue de la bataille au détriment des troupes françaises. Nous sommes en pleine guerre de Cent Ans, sous le roi de France Charles VI de Valois. Ce roi est atteint de folie et n'est pas présent, bien sûr, sur le terrain. Après des années de trêve, suite à la défaite française de Crécy et aussi de Poitiers, les combats sont sporadiques. De temps à autre, les Anglais traversent la Manche et mènent des razzias à travers les provinces françaises, laissant derrière elles des campagnes dévastées. Cela depuis presque un siècle, 1337. N'oublions pas aussi que Carbone a été rasé par l'incursion du prince noir en 1355. Maintenant, les belligérants ont d'autres soucis. Leur situation est instable de part et d'autre. En Angleterre, les Lancaster et les Plantagenets rivalisent pour s'asseoir sur le trône. En France, Charles VI, le bien-aimé, atteint de folie et incapable de gouverner, a laissé, bien sûr, s'installer un climat délétère de guerre civile entre le parti des Armagnacs et celui des Bourguignons. En Angleterre, Henri a restauré la concorde intérieure. Maintenant, il a les mains libres pour faire valoir ses droits à la couronne de France. Après échec prévisible des négociations, car il fait assaut de prétention sur le royaume de France, ceci inacceptable, le jeune souverain reçoit l'autorisation de son grand conseil de débarquer en Normandie. Son but caché est Paris. En août 1415, quelques 900 navires anglais, dont les coques sont décorées de figures animales, ainsi que des armoiries royales, franchissent la Manche. L'objectif est de prendre Harfleur, verrou stratégique de la Seine. Après un mois de siège, la ville est enfin prise, mais à quel prix ? Seuls 400 défenseurs ont retenu l'armée anglaise jusqu'à mi-septembre et personne n'est venu les aider. La prise d'Harfleur a épuisé les troupes. L'automne arrive, la tempête a dispersé une bonne partie de la flotte. Il n'est donc pas possible de faire demi-tour en Angleterre. Henri V n'a d'autre solution que de se replier sur Calais, qui est en fait une enclave anglaise depuis le début de la guerre de Cent Ans, soit une soixantaine d'années. 9000 soldats constituent les troupes d'Henri V. Mais n'oublions pas que chaque combattant nécessite un accompagnement en intendance de 3 fois plus de personnes. Donc on peut estimer à 30 000 hommes le nombre débarqués, sans compter les chevaux, les vivres et palefreniers. Et normalement, il leur faut en principe une semaine afin de joindre Calais au travers de la Normandie et de la Picardie. L'expédition tourne au cauchemar pour l'armée anglaise. La dysenterie fait des ravages suite à la consommation de moules de la Seine. Les cadavres jonchent tout le long du chemin. La pluie et le vent empêchent la progression. Les organismes sont fourbus. Bien informés, les Français, conscients de leur supériorité, sortent alors l'oriflamme rouge de la basilique Saint-Denis. C'est l'appel au combat derrière Charles d'Albret et le maréchal connétable Boussicault. Marchez, sus aux Anglais. Tiraillés par la faim, impuissants et fatigués par la maladie, les Anglais voient le piège se refermer. Les Français ont détruit les ponts sur la Somme. Dès lors, l'armée anglaise recule, longeant la rive gauche, jusqu'à Amiens. Le souverain anglais veut éviter la confrontation. Les Français le poursuivant et ne lui laissant aucun répit, les troupes anglaises s'enfoncent sous une pluie incessante dans les terres françaises sans pouvoir rejoindre Calais. Remontant la Somme jusqu'à Fourilly, Henri V coupe alors la boucle, se dirigeant ainsi vers une Somme en amont plus franchissable car plus étroite et traverse entre Bettencourt et Voyenne, créant un pont avec des éboulis des arbres abattus, des ballots de paille et de planches, et ceci à la grande surprise des Français. Henri V fit ainsi traverser ses archers, les Français arrivant trop tard. Les Français ont l'avantage en nombre, mais refusent d'écouter les conseils du duc de Berry, oncle du roi. Et après plusieurs jours de tergiversation, ils laissent aux Anglais le temps de reprendre des forces, puis décident d'attaquer. Quelques jours plus tard, le combat se précise dans la vallée de la Ternoise. Henri V dirige ses troupes sur un promontoire. Le 25 octobre va devenir un jour funeste pour les Français. Toute la nuit, des trombes d'eau s'abattent. Pour les archers anglais, l'humidité est un risque pour les cordes de leur arc. La consigne est de les protéger sous leur cape. Ces arcs, d'ailleurs, sont très puissants. Des longbows. Ils tirent 12 à 14 flèches par minute. Ils nécessitent quand même 50 kg de traction. Ils sont droits et étroits et peuvent être protégés. Ce qui n'est pas le cas des arbalètes françaises très puissantes, mais dont le cordage a été mouillé et qui ne tirent que 2 carreaux minute, ce qui vont être mal disposés en plus dans le combat. Toute la nuit, les Anglais vont enfoncer des pieux dans le sol afin de protéger les archers de la cavalerie française. Les archers sont dans les bois de part et d'autre sur les hauteurs d'un goulot d'étranglement marécageux, parfaitement dissimulé. L'armée anglaise est en ligne et attend la charge de la cavalerie. Derrière les archers, il y a 3 corps d'armée. Henri V commande le corps central, le duc d'York, la droite, et Camoys, la gauche. Les Français n'ont pas retenu les défaites de Crécy et Poitiers. Ils se jettent tête baissée dans la bataille. Ils chargent là où ils sont le plus attendus, dans l'endroit le plus étroit du champ de bataille, à distance des archers. La charge frontale de la cavalerie française est freinée par le terrain gorgé d'eau. Les cavaliers lourdement chargés s'enlisent, tombent. Les Anglais les achèvent, l'arme au poing. Les 1700 prisonniers français, tous appartenant à la noblesse, seront achevés par ordre d'Henri V, qui craignait d'être surpris par ses arrières et par l'arrivée de Jean sans peur, duc de Bourgogne, qui resta d'ailleurs à l'écart. les Français ont perdu près de 10 000 hommes. Les Anglais, seuls 13 chevaliers, dont Édouard York, et 600 soldats. Ainsi, la défaite d'Azincourt signe la fin de la fleur de la chevalerie française. Les erreurs stratégiques flagrantes et l'absence d'évolution dans les techniques est le plus préjudiciable. L'inefficacité des cavaliers dans de telles conditions remet en cause les techniques moyenâgeuses de bataille. Avec les techniques météo actuelles, le combat aurait été évité et reporté. Enfin, le traité de Troyes en 1420 complète l'humiliation. L'épopée de Jeanne d'Arc et la victoire de Castillon en 1453 rétabliront la légitimité française en mettant fin à la guerre de Cent Ans. Je vous remercie et à la prochaine émission. retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.